Volume présente Diable Blanc de James Robert Baker, lu par Adrien Rouchard. Avant-propos. Je ne me rappelle plus quand j'ai dit à Tom Dunbar, ce à quoi il fait allusion dans les pages qui vont suivre, que je ferais bien de faire comme lui et d'écrire un bon gros true crime, un de ceux qui me rendrait si riche que je serais libre, comme il l'était, de poursuivre les objectifs purement artistiques de la vraie fiction. C'est le genre de choses que j'aurais pu dire lors de l'une de nos randonnées dans les collines de Santa Monica. C'est là qu'avaient lieu la plupart de nos conversations. Et j'ai dû dire ça il y a un certain temps, bien avant cet après-midi où Tom a mentionné en passant que nous ne serions peut-être plus voisins pour longtemps, puisque leur maison, à lui et Beth, allait être saisie. Même si cela m'avait surpris, je n'avais pas posé de questions. À ce moment-là, Tom et moi avions déjà fixé certaines limites. Nous discutions exclusivement de littérature, de cinéma et de politique. Tom était un néolibéral, tandis que je suis un anarchiste radical. Nous étions potes de rando. C'est tout. Deux mecs qui, accessoirement, étaient aussi écrivains et qui respectaient suffisamment les différences de l'autre pour savoir où s'arrêtait notre camaraderie. Nous n'avons jamais été ce que l'on pourrait appeler des intimes ou des confidents. D'où ma surprise initiale d'être le destinataire du compte-rendu audio qui constitue ce livre. Depuis, j'en suis venu à comprendre que c'était justement cette distance qui a permis à Tom de parler si librement. J'étais l'auditeur idéal, ouvert et à l'écoute, sans être toutefois directement concerné. Et j'étais prisonnier des circonstances. Si j'allais juger Tom, ce qu'il savait évidemment que je ferais, au moins ce serait avec une oreille neuve. J'étais au Mexique lorsque les événements que Tom relate sont arrivés. J'avais voyagé jusqu'à Mazatlan, où je m'étais isolé pendant 2 mois pour peaufiner la version finale d'un roman. Avant de partir, j'avais demandé à Tom de garder un œil sur mon appartement, et lorsqu'il eut accepté, je lui avais confié une clé, fournissant ainsi le décor à l'un des épisodes les plus poignants de son récit. Je vivais alors dans un petit logement de Castellamar, à Pacific Palisade. Le quartier recouvre une colline littorale sujette au glissement de terrain, dont les rues étroites sont reliées les unes aux autres par des escaliers escarpés. Tom et Beth Dunbar habitait en dessous de chez moi, au pied d'une de ces volées de marche en béton, dans une maison de style italien des années 20, sur Revelo Drive. Pour être franc, je n'aimais pas Beth. À vrai dire, je ne connais personne qui l'aimait, à l'exception de Tom. J'entends encore sa voix étonnamment fluette, ses remarques insidieuses dénotant un sarcasme sournois, pathologique. Un bref échange avec elle, même pour se saluer, pouvait vous laisser l'impression d'avoir été émotionnellement agressé. Ma première rencontre avec Beth fut anonyme. Peu de temps après avoir emménagé dans le quartier, et plusieurs semaines avant de faire la connaissance de Tom sur un sentier de randonnée, j'avais failli lui rentrer dedans de plein fouet, alors qu'elle prenait à fond la caisse un virage sans visibilité avec son Land Cruiser blond, ainsi que Tom le décrivait. Et c'est vrai, il avait la même teinte pâle que les cheveux de Beth. Elle était incontestablement en tort, mais avait néanmoins baissé sa vitre et beuglé « Enculé !» J'avais rétorqué en hurlant, dans un langage dont je ne suis pas particulièrement fier, « Suce ma bite, sale conne de Bourges !» Lorsque nous avons été officiellement présentés, quelques mois plus tard, elle ne m'a pas reconnu. Quoique j'aie essayé de lui accorder le bénéfice du doute, elle continuait à déclencher chez moi une méfiance viscérale. Parfois, les premières impressions peuvent être cruellement les plus justes. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas belle. Elle l'était, et pas d'une manière superficielle à la californienne. Au contraire, son narcissisme acerbe ne pouvait dissimuler une intelligence féroce, une sorte de génie fêlé, et l'on comprenait que Tom puisse la désigner parfois caustiquement comme sa Zelda.